Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour les meilleurs moments de la saison de Rotten sans flamme. Bonne fête de fin d'année à tous. Si c'est le cas pour vous, on se retrouvera rapidement à la rentrée au mois de janvier avec Jérôme Rotten et toute la Dream Team de 18h à 20h du lundi au vendredi sur RMC. Une grande émission vous attend, les meilleurs moments de cette première partie de saison, avec dans quelques instants une interview, celle de Mickaël Landreau, le porte-parole des arbitres qui était venu nous rendre visite le 4 septembre dernier. On parlera également à 18h30 du procès de Liverpool. On avait fait le procès de Liverpool qui avait dépensé 500 millions d'euros au mercato d'été. On avait fait le débat avec Pascal Olmeta et Jean-Michel Larquet. Et puis le Allo Jérôme, c'est l'autre tradition dans Rotten sans flamme, tous les jours à 18h45. Vous réentendrez Omar Da Fonseca qui était venu rendre un hommage appuyé à Léo Messi, la star de l'Argentine. Mais on démarre tout de suite donc avec le porte-parole des arbitres, Mickaël Landreau, qui était notre invité le 4 septembre dernier.
Je te demande pardon.
Je veux des arbitres étrangers dans un premier temps pour relever le niveau parce que franchement c'est catastrophique.
C'était le folklore dans les vestiaires.
Le folklore. Je veux bien qu'ils fassent des séminaires, qu'ils se réunissent très souvent, qu'ils fassent le bilan des journées, mais il n'y a aucune amélioration.
Ah ben c'est la fête à neuneux, hein, ça y est, on change tout.
Les paroles qu'ont les anciens joueurs qui sont devenus arbitres aujourd'hui, mais elles comptent pas parce que les autres ils se prennent pour d'autres, ils se prennent pour les petits chefs.
Je crois qu'on a connu justement tout le fin fond de l'histoire.
Arbitre professionnel aujourd'hui. Les explications, on doit les avoir. Tu viens et tu expliques. On te comprend. Comprends pas, tu sais que tu vas prendre une déferlante derrière parce que c'est la médiatisation qui est comme ça.
Rien plus rien, ça fait rien de neuf, il y a rien du tout.
Le sport de haut niveau sans arbitre, c'est pas possible.
J'ai vécu ça même moi de mon vivant.
T'as jamais simulé ou pas toi, Manu?
Pas sur un terrain.
Je te demande.
Je m'en lasse pas celle-là. Une grande histoire d'amour entre Rotten sans flamme et l'arbitrage français. On est donc très heureux de se recevoir Mickaël Landreau, conseiller sportif, porte-parole des arbitres. Pour la deuxième saison, hein, Mika, c'est la deuxième saison que tu as ce rôle. On rappelle que tu as fait 18 ans de carrière en Ligue 1, hein, énormément de matchs, près de 800 matchs professionnels.
Le record.
Ouais, le record. On rappelle également que tu as été entraîneur à Lorient, que tu es consultant également pour Canal+, donc tu connais tous les aspects du paysage footballistique français.
Toutes les casquettes, c'est fou. Hein.
Et on a le temps aujourd'hui donc de te poser toutes les questions par rapport à l'arbitrage. On a souvent été critique, Jérôme, est-ce que tu peux rappeler en quelques mots les principaux reproches que tu fais à l'arbitrage français d'ailleurs?
On en a parlé un peu en coulisses avec Mika, mais c'est plus intéressant d'en parler là. En effet, moi, les premiers reproches, c'est la communication. Déjà, je trouve que ils vivent trop en autarcie. Ça, c'est ma première réflexion et Mika répondra aussi à ça. Et c'était intéressant ce qu'il m'a dit sur cette fameuse communication.
C'est sympa que tu dises que je sois intéressant.
Non, mais c'est vrai. Bah, de toute façon, tu vois, je vais pas te dire. On en a parlé. Et c'est vrai que tu peux avoir envie de changer un petit peu d'avis là-dessus. Mais ça, c'est le gros reproche que j'ai à faire sur les explications, sur les erreurs en temps réel aussi, parce que j'imagine que et Mika il m'en a parlé aussi que l'année dernière sur les grosses erreurs, sur les gros matchs très médiatisés, en effet j'aurais aimé qu'il y ait très vite une communication, c'est-à-dire juste après le match, tu vois, comme un joueur quand il est pas bon il vient s'expliquer ou un dirigeant, pas tous mais
très rarement,
mais
souvent c'est un entraîneur qui parle à sa place et on protège les joueurs.
C'est vrai mais au moins il y a une explication. Alors après, peu importe pourquoi il y a
pas. Je trouve gentil, Jérôme.
Non, mais c'est pas gentil.
Là, c'est Mika et là, après, dans le studio, nous là.
Pas du tout. Mais
bah, il a dit les choses concrètement. Alors, on va sortir les sonores.
Je dis juste ça. Bah, les sonores, on les a entendus.
Non, mais la communication, tu en parles souvent.
La communication et les erreurs et surtout
et la priorité
et l'attitude. L'attitude des arbitres de certains.
Arrête un peu.
Je trouve. De quoi?
Combien de fois t'as défoncé l'arbitrage français?
Ben c'est ce que je viens de dire.
Mais là, non, à chaque fois tu les critiquais sur ces raisons-là, mais la raison prioritaire, la number one à chaque fois, c'était toujours la même. Tu m'as toujours dit que les arbitres français étaient nuls.
Non, j'ai pas l'impression d'avoir dit que les arbitres français.
Tu vas pas ressortir tous les sonores là, ces deux dernières années, c'est un truc de fou.
De toute façon, Manu, tu peux pas me dire que j'ai dit que les arbitres français étaient nuls parce que déjà je le pense pas. Donc va pas me dire des choses que je pense pas.
Combien de fois t'as défoncé Frappard, t'as défoncé tous les arbitres
parce que elle et mais est-ce que elle représente l'arbitrage français?
Jérôme, faut assumer.
Non mais attends. Non, Manu, je suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis l'arbitrage
est des conneries, je l'assume.
L'arbitrage français n'est pas nul. La preuve, c'est que en Coupe d'Europe, on est les premiers à dire que c'est pas les mêmes personnages, du moins c'est les mêmes arbitres.
Arrêtez,
mais c'est pas la même personnalité.
Ici, les anciens joueurs défoncent l'arbitrage français.
Mais justement, alors, profitons de la présence de Mika.
Ce que je veux dire, et je pose la première question à Mika, parce que là,
moi, je suis content que tu sois là.
Tu me fais un procès qui est pas le bon. Moi, j'assume toutes mes critiques, mais de dire à tout le monde que j'ai dit que l'arbitrage français était nul, c'est pas vrai. Par contre, dans l'attitude, en effet, je trouve que
les arbitres français.
Alors justement, démarrons là-dessus avec Michael Landreau, qui est donc le porte-parole de l'arbitrage. Michael, rappelons.
Après, dans l'émission de Jérôme, tout le monde se fait défoncer. Que ce soit arbitre, joueur, entraîneur, tu y passes quoi qu'il arrive.
Non,
le but un peu de l'émission quand même.
Il faut tout le monde.
Au fur et à mesure, plus tu fais de matchs, plus tu fais.
Oui, tu es exposé.
Quand tu fais des émissions comme celle-ci toutes les semaines et tous les jours. Potentiellement,
Mika, à partir du moment où t'es critiquable, je veux dire, il faut aussi trouver des circonstances.
Juste entendre là-dessus, Mika, parce que il y a une réalité tout de même, et c'est tombé. D'ailleurs, il y a une récompense hier par le SAF, le syndicat des arbitres, récompense remise à Stéphanie Frappard et François Le Texier, qui ont été respectivement nommés meilleur arbitre du monde en 2023 et 2024. Signe que l'arbitrage français, en termes de niveau international, est reconnu.
Bah oui.
On peut avoir des débats sur ce qui se passe parfois sur les week-ends de Ligue 1, sur les gros matchs.
Il y en a à chaque week-end. Non,
les récompenses tombent et les arbitres français, on leur fait confiance dans les grands rendez-vous internationaux.
Après, pour moi, il y a plein de sujets dans ce qui est développé déjà là. Et c'est une évidence, il y a une marque française de l'arbitrage aujourd'hui qui est une référence. Tu ne peux pas arbitrer le match d'ouverture de l'Euro par un Français et arbitrer la finale de l'Euro par un Français qui n'est pas le même arbitre. C'est rarissime, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Et en même temps, t'as même le troisième et quatrième qui sont Benoît Bastien et d'autres arbitres qui pourraient être à ce niveau-là. Oui, là, on va dire que l'arbitrage français fait partie des meilleurs au monde et c'est une référence. Pourquoi l'UEFA?
Alors pourquoi autant de polémiques alors?
Bah parce qu'en fait c'est assez logique. C'est-à-dire que dans le championnat national, il y a des pressions sur chaque match, il y a des analyses de situation, il y a des erreurs aussi. Et quand on est dans notre championnat, on critique plus facilement en plus l'arbitre. On crée des polémiques autour des clubs, des supporters, etc. Ah oui. Et moi, où je trouve en y vivant avec eux, parce que j'ai été aussi joueur, j'ai été entraîneur. Et quand j'étais entraîneur,
t'étais virulent envers l'arbitrage.
Ouais, complètement. Mmh. Moi, j'ai commencé en disant putain, j'ai pas aimé l'homme que j'ai été tout le temps quand j'étais entraîneur. Joueur, non. Joueur, franchement, j'ai été très respectueux.
Mais ça veut dire que si tu n'avais pas franchi la ligne, tu serais son entraîneur, tu aurais continué à avoir ce même état d'esprit.
En fait, aujourd'hui.
Alors, t'es un éducateur et un
joueur, mais
à la base,
c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je trouve que c'est déjà de pouvoir se rendre compte. Moi, quand j'ai fini la session avec Lorient, je me suis dit, j'ai pas envie de continuer de cette manière-là. J'avais, en tout cas, en termes d'éducation, en termes de. Et je trouve que ce qui est gênant, et c'est comme quand j'étais joueur ou entraîneur, qu'on puisse dire, quand on reconnaît une faute et qu'on est analysé justement, c'est comme quand t'es gardien. Tu fais une erreur. Tout le monde dit que t'as fait une erreur. Mais que tu respectes l'homme, déjà, c'est pas la même chose. Que tu respectes la fonction, c'est pas la même chose. Par contre, tu peux dire, oui, il y a eu une erreur. Il y a les arbitres, ils acceptent parce qu'ils ont un très très haut niveau d'exigence. Bien plus.
Et il y a l'intégrité aussi.
Ah ça, par contre,
mais là où je rejoins Jérôme, en fait, c'est sur l'omerta, en fait, l'opacité qui entoure le corps arbitral. Tu peux pas me l'enlever.
Aujourd'hui,
ils font partie du jeu au même titre que des entraîneurs, les joueurs, les présidents, tout ça. Ils passent tous sur le grill en permanence. Après les conférences de presse.
Aujourd'hui,
les arbitres sont toujours exonérés de tout ça, en fait.
Ça me gêne un petit peu que vous dites ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, en tout cas, depuis que j'y suis, ça fait un an, déjà, ils se sont ouverts. Puisque pour la première fois, ils prennent quelqu'un qui n'est pas arbitre.
On les entend pas.
Attends. Pour la première fois, on prend quelqu'un qui n'est pas arbitre. Donc c'est une vraie ouverture.
Ouais.
Donc, et derrière, dans tout ce qui est mis, une évolution qui est énorme. C'est-à-dire que maintenant, il y a des pastilles qui sont mises le lundi ou le mardi sur le site de la Fédération, en lien avec la Ligue aussi.
Avec des erreurs reconnues.
Ça fait 100% des sollicitations des clubs sur des sujets techniques, 100%. On a répondu au club, on a fait des visios.
D'accord, mais moi je te parle des
et tous les clubs, Mika, ne communiquent pas de la sorte. En disant
100%
que...
des sollicitations qu'on a eues pour faire une visio, pour expliquer des situations de jeu, on a répondu oui et on l'a fait. Donc il y a les médias, j'entends que vous aimeriez encore plus. Mais en fait, dans l'organisation...
Du jeu, Mika. Ben, d'accord avec moi.
Ben justement,
alors
je pense.
Pourquoi c'est le seul acteur qu'on n'entend pas à l'issue des matchs ou
parce
même
que c'est, parce qu'en fait aujourd'hui c'est pas possible déjà.
Mais
parce qu'il y a des situations qui sont grises. Il y a vraiment des situations.
C'est-à-dire, je comprends pas.
Bah en fait, il y a des faits de jeu où même nous on serait pas d'accord.
Oui, de l'interprétation, tu parles.
Oui, donc en fait.
Oui, mais qu'est-ce que ça coûte de l'assumer après un match?
Exactement.
De venir en conférence de presse et de
ça
prendre 5 minutes.
Les débats.
Parce qu'en fait, même nous, quand on humaniser des débats. Moi, j'ai jamais vu chez Rotten sans flamme humaniser des débats.
Mais
pour
justement,
moi,
parce qu'il y a une omerta, il y a une opacité.
Non, au contraire, parce qu'aujourd'hui, on est en train de dialoguer avec tout le monde pour que chacun puisse se dire, ok, ce qui est attendu, la ligne technique qui est attendue, c'est celle-ci. Par exemple, l'année dernière, on a sollicité les clubs, et c'est pour ça qu'il y a des évolutions en cours qui sont énormes. On a sollicité les clubs pour présenter la ligne technique, une réponse. Il y a eu 5 matchs, il y avait 10 réponses. Cette année, avec tout le travail qui est fait, à la première journée, il y avait déjà 14 clubs qui avaient répondu et qui ont été vus dans les premières
sur
18. Semaines. Sur 18. Mmh. Ce qui est énormissime. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont en train de changer. Quand, par exemple, on voit au rugby, il y a une journée obligatoire à ce que tous les clubs viennent sur une journée de lancement pour travailler autour de l'arbitrage. Cette année, par exemple, on a envoyé un questionnaire avec une quinzaine de situations de jeu au club en disant, voilà, vous attendez quoi? Quelle serait votre décision? Même à l'intérieur des clubs, on a vu des réponses où ils sont pas d'accord. Donc en fait, aujourd'hui, justement, tout le travail qui est fait pour s'ouvrir. Et même en interne, c'est-à-dire que on a été joueur, c'est jamais facile que ton coach, par exemple, va dire « Putain, Manu, oh, ce soir on a perdu à cause de toi. » En live, le soir même, « Bah non, tu fais partie de ton équipe, l'erreur a fait partie du jeu. » L'arbitre, s'il a fait une erreur, vous croyez qu'il a envie de faire une erreur? François Le Texier, sur le Paris-Marseille de l'année dernière, il parle tout de suite.
Et c'était très bien.
Ça n'a pas du tout apaisé. Il y a des gens qui ont compris.
Il parle du carton rouge d'Amin Harit.
Il y a des gens qui se sont dit, c'est super. Puis il y a toute une autre partie.
Mais
ça sera en permanence.
Oui, mais Mika, ça, il l'explique et au moins ça permet d'atténuer les critiques et ce qu'on pense.
Ou
par
pas.
Exemple, sur... non, mais regarde, moi je parle pour mon émission. Parce que tu dis,
oui,
voilà.
Toi, tu vois, en fonction de ton émission, qu'il faut que tu fasses une émission tous les jours.
C'est pour ça. Donc, moi, je reviens aux critiques et j'assume les critiques que j'ai pu faire sur François Le Texier, le changement d'attitude qu'il a eu entre Marseille-Paris et le Monaco-Paris-Saint-Germain 15 jours après. Pourquoi je parle de ça, c'est que après le match de Marseille, et c'est pas parce que c'était pour le Paris Saint-Germain, parce que je les vois arriver les supporters marseillais en disant oui mais lui le Parisien va donner raison à Le Texier parce que il a mis un carton rouge à un Parisien, pas du tout. Je trouve que son explication était juste. Après, peu importe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, l'intégrité physique du joueur, est-ce qu'il a fait exprès, pas exprès, est-ce que c'était trop dur pour l'OM, peu importe, mais au moins il est venu s'expliquer, il a assumé. 15 jours après, moi je l'avais défendu même dans ce sens-là, pour te dire que autant je suis très critique et j'assume, mais là je l'avais défendu. J'avais été dans le sens de Le Texier en disant je trouve ça bien qu'il soit venu s'expliquer. 15 jours après, il y a Monaco, donc Paris Saint-Germain, je sais, tu m'as expliqué pourquoi. Mais bon, peu importe. L'incompréhension, elle est terrible.
On rappelle un single sur Donnarumma.
L'intégrité physique. Donnarumma, c'est une balafre de 8 cm.
Carface.
D'accord. On lui met même pas un rouge à Singo. Ça passe comme une lettre à la poste.
Non, ça passe pas comme une lettre à la poste.
Non, mais pour les Marseillais, c'est terrible parce que là, ils se disent, mais attends, l'explication, Harit, là, il y a 15 jours. Et là, maintenant, tu mets pas l'intégrité physique. Pourtant, il lui met le pied dans la gueule. Tu vois? D'accord. Une fois, il vient pas derrière s'expliquer. Il y a personne qui explique. Toi, tu m'as dit 24 heures après, tu as fait une explication.
Le lendemain, on a dit ce qu'on avait décidé, ce qui correspondait à ce qu'on attendait.
Mais à chaud, on peut aussi se dire, mais attends, mais pourquoi il vient pas s'expliquer? Parce que il s'est déjugé par rapport à ce qu'il a dit il y a 15 jours. Donc, il y a une incompréhension. Et derrière.
En fait, ça laisse une zone de flou, le fait qu'il ne vienne pas s'exprimer. C'est ça qu'on veut dire.
En fait, il y a ce que vous voyez. Est-ce que l'arbitre, déjà, il subit après une intervention comme celle qu'il fait. Et ça, vous,
oui, mais
vous...
c'est comme les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les présidents. Tout le monde se fait défoncer après une conférence de presse. Hein.
Franchement, l'année dernière, on a eu quand même des choses. On a rarement des joueurs qui où on attaque les voitures des femmes. Ouais, on crève
les
pneus.
Dans tous les pays, c'est comme ça. Tu as raison.
Non, mais on parle de la France. Non, mais on parle de la France. On parle d'un pays où on parle. Enfin, moi déjà, je parle de mon pays. Donc, on est dans notre environnement. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont à peser, qui sont à réfléchir. Il y a des situations où après le match de Monaco-Paris. On était en stage, donc on sait très bien tout ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a une communication, il y avait pas sur place l'entraîneur ou le manager des arbitres ou le directeur. Il y a un entraîneur des arbitres. Eh ben, il est pas sur les 9 matchs ou il est pas sur.
Donc c'est un sous-effectif.
Donc, on peut pas à chaque match, ça peut pas être l'arbitre qui peut aller communiquer. Ça doit être réfléchi, ça doit être posé, ça doit être évidemment
mais Mika,
que c'est
ça
réfléchi.
Ça s'entend
après,
ça.
Après chaque match, c'est dommage. Normalement, on n'est même pas obligé.
Oui,
c'est interdit
normalement. C'est d'attendre un an d'avoir une explication ça s'entend.
Mais c'est pas, vous attendez pas un an parce que en fait, on répond aux sollicitations.
Pas toujours.
Non, mais on n'est pas obligé de répondre. Médiatiquement, de venir dans les émissions.
Non, pas obligé.
Mais est-ce que les arbitres. Je donne la parole à Jean-Michel juste après. Est-ce que les arbitres veulent aller dans le sens de cette communication?
Par exemple,
est-ce qu'ils sont ouverts à ça?
Aujourd'hui, nous, on aimerait qu'il y ait la sonorisation. On est prêt.
Ça existe en Angleterre, non?
Par contre, pour l'instant, c'est dans les mains de la Ligue.
Parce que la Ligue dit qu'elle n'a pas le budget nécessaire pour la mettre en place.
Voilà.
C'est ça l'histoire.
Ah oui, mais là, ils ont pris trop de commissions.
Non, mais c'est même pas.
C'est juste un micro.
Jean-Michel, vas-y.
Oui, non, mais je pense qu'on est parti sur un faux débat. Bon, il paraît que la VAR, lorsqu'elle est arrivée, devait résoudre tous les problèmes. On s'aperçoit quand même que de toute façon, VAR ou pas VAR,
déplacé,
à un moment donné, il y a un jugement humain et que ce jugement humain, il n'est pas le même pour tout le monde. On est tous d'accord là-dessus. Là, il n'y a pas à tergiverser. Mais moi, c'est pas là-dessus que je critique ou je suis, pas contre les arbitres, mais je suis sceptique sur les arbitres. Moi, je vais vous raconter une histoire. Parce que c'est très bien de parler de l'arbitrage professionnel. On dit, on n'a pas le même maillot, mais on fait partie de la même famille. Je vous dis que non. Je vous dis que non. Je vous dis simplement, au mois de mai dernier, j'ai assisté, parce que j'y vais souvent, à un match de 9e division du football français. 9e division, vous m'entendez, hein? Donc, district première. Et comme c'était la dernière journée de championnat, bien, il y avait des dirigeants, des jeunes dirigeants bénévoles, vous m'entendez, parce que l'arbitre, et lui, en général, a un forfait, qui, pour faire plaisir à l'équipe U15, avait fait un match de levée des rideaux. Et bien qu'il se soit le mois de mai, il pleuvait. Et il y avait la ligne de but qui était légèrement effacée, parce que les petits gardiens de but de U15 avaient effacé l'arbitre du centre de l'équipe du match d'après, qui n'avait aucune influence, aucune importance sur les montées ou les descentes. Et c'était un match amical. Il est arrivé, cowboy. Non, le match ne peut pas avoir lieu parce qu'il y a 2 mètres de ligne de but qui manquent. Et évidemment, problème parce que c'est un terrain municipal et les employés municipaux avaient tracé le terrain le vendredi. Bon, on a bricolé pour remettre avec une bombe une ligne blanche. Bon, finalement, le match a eu lieu. Mais dans cette attitude, moi, je vais annuler le match. Le match n'aura pas lieu.
Ouais,
donc, autant dire. Bon, il y a ça. Et ah bon, 10 secondes après, il dit « Ah ben, normalement, on devait être 3, mais on n'est que 2. » Alors, le règlement vous oblige, parce qu'il y a une défaillance du corps arbitral, le règlement vous oblige à fournir aux deux équipes un arbitre de touche éventuel à tirer au sort. C'est-à-dire que quand ça les arrange, c'est le règlement, et quand ça les arrange pas, c'est toujours le règlement. Ça, c'est insupportable. Et cette attitude-là, malheureusement, Mika, cette attitude-là, on la retrouve au plus haut niveau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je parle pas des erreurs d'arbitrage. J'ai toujours été pour, oui, goal line technology, oui. VAR, non. Donc, c'est clair là-dessus. On fait le contraire. C'est pas grave. Et la dernière attitude, le dernier point sur lequel je voudrais simplement appuyer, c'est que on peut pas être en même temps juge et partie. Tu parlais de rapport d'arbitre tout à l'heure, ou des rapports des délégués. Mais c'est, ils se tiennent tous par la barbichette. Les rapports sur les arbitres et les notes sur les arbitres devraient être donnés par des gens indépendants, non pas de la commission d'arbitrage, des gens indépendants de la Fédération française de football. Là, je porterai davantage de crédit. Aujourd'hui, on est juge et partie. Alors, on a 16-20 pour l'un, 16-15 pour l'autre, 16-25 pour le troisième. Je connais le système. Le problème de l'arbitrage aujourd'hui, c'est que c'est une secte fermée. C'est une secte fermée, Mika. Malheureusement, ils ne portent pas le même maillot et ils ne font pas partie de la même famille. C'est clair.
Enfin, moi, je trouve que c'est honteux ce qu'il dit et ce qu'il raconte, et il fait énormément de mal aux hommes qui sont sur les terrains, que ce soit les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. Et je pense que quand on a la dimension de quelqu'un comme Jean-Michel Larquet, on devrait mesurer ces propos-là. Et pour moi, il y a des arbitres...
Attends, c'est du factuel que je te dis.
Je te dis juste.
C'est du factuel,
le factuel. Jean-Michel, je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé, Jean-Michel.
Non, mais si
je te dis juste. Je te dis juste qu'un arbitre, il y a des règlements. Le terrain, il doit être tracé. Après que l'attitude, le terrain, il doit être tracé. Est-ce que l'attitude ou pas, le terrain, il doit être tracé. Si le règlement, règlement. Attends. Mais en fait, le cadre qui est posé, c'est oui. S'il y a pas un troisième arbitre, malheureusement assistant, qui n'est pas là, ça doit être fourni par le club. Mais en fait, c'est à partir de certaines règles qu'à l'intérieur, il y a de la liberté. Et moi, quand je t'entends dire tout ça, moi, depuis un an, j'aurais pas prolongé. Et je pense que vous me connaissez suffisamment s'il y avait des malversations ou s'il y avait quelque chose.
Mais et moi, je trouve,
parce que les notes, quand tu dis que dans tes propos, moi, je peux te dire, non, j'ai vécu les notes.
Ce qui est honteux, c'est que tu me fasses dire des choses que je n'ai pas dit. J'ai jamais dit qu'il y avait des malversations.
Non, mais c'est bien que vous vous parliez, parce que ça, c'est un sujet récurrent.
Non, j'ai jamais dit ça.
Les notes, aujourd'hui, les notes, elles sont notées. Qui analyse le mieux les joueurs? C'est ton entraîneur, Jean-Michel. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que l'entraîneur, il pose une équipe, il pose un système de jeu, et les joueurs, qui doit analyser le mieux, c'est pas le consultant, c'est pas quelqu'un d'indépendant, c'est l'entraîneur. Donc aujourd'hui, dans ce que je vis en tout cas, Amaury Delrue, c'est l'entraîneur des arbitres, il y a une ligne technique qui a été posée, il y a des notes qui ont été mises en lien avec les performances et ce qui était attendu. Et ça peut être personne d'autre que ceux qui sont au quotidien dans ce qui est demandé, qui analysent et qui notent.
Là-dessus, on n'est pas d'accord.
Donc, l'entraîneur, c'est celui qui connaît le mieux ses joueurs. Et à la fin de saison, un management qui marche, un management cohérent, c'est quand les joueurs, ils savent que l'entraîneur, il ne triche pas. C'est que quand l'entraîneur, il sait que celui qui joue, c'est celui qui fait les efforts, c'est celui qui est dans la ligne technique. Et moi, ça me scotche que tu dis ça, parce que aujourd'hui, en tout cas, alors je sais pas ce qui s'est passé avant, et ça me regarde pas. Je sais qu'il y a, oui, des organes politiques et qu'il y a eu des choix peut-être, parce que ça a été dit. Mmh. Mais moi, j'en sais rien. En tout cas, là, depuis que j'y suis, il y a un alignement entre ce qui est demandé, ce qui est décidé, et il y a une cohérence. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve que dans la nouvelle politique, en tout cas, dans ce qui est mis en place par Anthony Gauthier, par Amaury Delrue, par ceux qui sont au niveau de la direction de l'arbitrage, il y a une cohérence, il y a du respect.
C'est pas du copinage, quoi.
Non, pas du tout.
C'est pour ça qu'aujourd'hui,
j'entends que vous parliez, vous avez le droit, vous êtes libre. Mais par contre, pour moi, justement, dans ce que je vois, on a beaucoup plus de choses, parce que je vais dire on, parce que je me dis, ouais, je suis joueur, entraîneur, à apprendre de l'arbitre. Moi, par exemple, je vais vous donner un fait qui m'est arrivé. J'arrive dans un vestiaire d'arbitre avant un match important, et je lui dis, alors, comment t'as préparé? Je lui dis, bah, je me prépare à ce que telle équipe, elle vienne presser 10 minutes une autre équipe, et mon positionnement va peut-être changer, parce que si. Je me dis, putain, normalement, ce match-là, c'est improbable. Moi, de mon œil, les 10 premières minutes, cette équipe-là, elle est venue presser.
Tu veux dire que ce sont des gens qui connaissent bien le foot, c'est ça
qui connaissent bien. Très,
heureusement encore.
Très, très bien le foot, bien plus.
Manquerait plus que ça.
Bien plus que des joueurs et peut-être bien plus que des entraîneurs à certains moments. Et c'est pour ça que c'est le métier, il est difficile. Je suis pas en train de dire qu'il y a pas d'erreur. Il y a des erreurs. Il y en aura. Et aujourd'hui, ce qu'on veut en tout cas, c'est essayer de se rapprocher le plus possible à la fois des joueurs, des entraîneurs,
pour
qu'il y ait de la pédagogie qui soit faite, et je pense que c'est en cours.
Quel endroit, le porte-parole des arbitres, conseiller sportif, qui est notre invité, pour répondre à toutes les questions sur l'arbitrage, et un dossier que tu voulais aborder, Jean.
Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Michel, alors je vais pas parler des arbitres amateurs, mais des arbitres professionnels.
Parce qu'ils sont en souffrance complète. Hein.
Voilà, c'est bien. Mais quand je parlais de mes critiques avec Manu au tout début, les critiques c'est sur l'attitude. Moi, je trouve qu'il y a une différence qui est énorme entre les très bons arbitres de Ligue 1 français qu'on a, quand ils arbitrent à l'étranger des matchs de Coupe d'Europe, d'accord, et quand ils arbitrent nos chocs en Ligue 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur l'attitude qui n'est pas forcément toujours la bonne ?
Non, je suis pas d'accord avec toi.
Voilà.
Déjà, s'il y avait des mauvaises attitudes de comportement, on travaillerait tous les jours pour que ça soit pas le cas. Et moi, je vois pas ça, et j'entends jamais un club dire ça.
De plaindre de l'attitude.
Ça arrive.
C'est très rare.
T'as eu un exemple vendredi dernier avec Lens-Brest, avec le carton rouge, une fois le match était terminé, pour Eric Roy, pareil pour Magnetti.
Mais c'est normal,
on peut même pas s'adresser à l'arbitre.
Non.
Ah bah aujourd'hui, c'est ce qu'on dit,
les acteurs du jeu,
à la fin du match.
Par contre, quand en Ligue des Champions, jamais ils le feraient. Déjà, c'est la première chose. On voit très bien les différents comportements, même des clubs, des joueurs et des entraîneurs en Ligue des Champions, dans un autre statut, les arbitres en Ligue des Champions. Jamais de la vie, ils se font emmerder.
Peut-être parce qu'ils savent aussi les sanctions de l'UEFA.
Peut-être aussi. Par contre...
Et parce qu'ils sont bien sur la défensive aussi.
D'ailleurs, on a communiqué sur ce qui s'est passé, malheureusement.
Vous avez expliqué pourquoi vous avez mis des cartons rouges. Interdiction d'aller s'en prendre à l'arbitre sur le terrain.
Il y a 30 minutes, le vestiaire, il est ouvert. Il n'y a aucun...
L'arbitre reste le patron sur le rectangle.
Et s'il y a eu ça, c'est qu'il y a eu des débordements. Il y a deux choses aujourd'hui qui sont importantes, qui ont été dites. C'est l'image du foot. On a souffert tous sur les attroupements autour des arbitres. Il y a des choses qu'on veut éradiquer. Ça en fait partie. Ça, c'est impossible.
Non, mais ça, on est d'accord.
Mais donc, si.
Donc, t'as une attitude de petit flic.
Non, c'est pas de petit flic. C'est pas de petit flic. Si, dans ce cas, si tu communiques, tu mets en place et ça se fait pas, en fait, tu fais quoi? Tu laisses. Et puis, les autres clubs, ils vont dire, on peut. Et puis, etc., etc. En fait, la règle, elle est la même pour tout le monde aujourd'hui. Pourquoi les, on sait, Mehdi Benatia et Olivier Létang, il y a eu un problème l'année dernière. C'était pas dans les 30 minutes. Il y a eu aussi
avec Jérémy Stinat.
Oui, exactement.
Ouais. Et t'as trouvé ça normal? Parce que moi, quand je parle des critiques, moi, j'ai pas trouvé normal, si tu veux, l'attitude ce jour-là de Jérémy Stinat. Tu vois,
mais en fait, c'est là où moi à l'intérieur, en entendant, en voyant ce qui se passe, moi je pense que ça aujourd'hui.
Non, mais ce qui avait fait polémique, c'est la différence de traitement entre les deux acteurs.
Ça, c'est autre chose. Mais la commission de discipline et ce qui s'est passé, nous on fait les retours. On travaille
Regarde, pour rebondir sur ce cas-là, et après on passera sur une autre question que l'attitude, mais je me souviens de Jérémy Stinat, donc qui expulse, du moins il fait expulser Mehdi Benatia. Derrière, à la commission, il a des propos qui sont quand même un petit peu déplacés envers Mehdi Benatia. Donc, tu vois,
Les propos déplacés?
Franchement,
je serais très surpris qu'un arbitre en commission ait des propos déplacés qui correspondent pas à ce qui se passe.
Il y avait eu quand même, Mehdi Benatia est venu me menacer, alors que, bon, apparemment, il n'y a pas eu une menace.
Qui t'a dit qu'il n'y avait pas une menace? Qui t'a dit qu'il n'y avait pas une menace?
La personne concernée,
quand je te parlais, il t'a pas dit ça.
Quand je te parlais d'attitude,
attitude menaçante, alors qu'il y avait eu des micros du diffuseur qui montraient.
Mais Mika, quand je te parlais d'attitude, on a été sur le terrain. Alors toi, tu bossais pas avec les arbitres, tu bossais avec moi sur le terrain. On a vu à l'époque, alors même si les arbitres, à part Clément Turpin, mais les autres n'étaient pas là, ils ont tous arrêté. On a vu des arbitres avant les rencontres avoir des attitudes un petit peu de cow-boy. La vérité, c'est qu'on l'a tous vécu au bout d'un moment. Je trouve, alors toi tu me dis que non, je trouve que certains, par exemple, je prends l'exemple de Clément Turpin qui est l'arbitre le plus médiatisé en France. Moi, je trouve en effet que son approche quand il arbitre en Ligue 1, elle est différente que son approche en Ligue des Champions. Voilà. Alors après, toi, tu me dis, c'est les joueurs qui sont peut-être moins chiants. Peut-être que c'est les consignes avec l'UEFA et tout ça. Mais je trouve que, toi, ça serait bien d'avoir un peu plus d'humilité de ce côté-là. Et je pense que t'irais un peu plus dans le sens des joueurs. Et on serait tous, non.
Moi, je suis partagé, Jérôme, à travers ce que tu me dis. Parce que, en fait, de l'humilité, un arbitre, il doit se préparer pour son match. Mmh. Chaque match a une énorme pression. Et justement, l'expérience que nous, on peut avoir, c'est qu'avant un match, si je t'inversais la chaussette tellement t'étais superstitieux, putain, tu nous aurais fait un carnage. Il y a un respect d'une préparation d'un match. Et je pense, en tout cas, dans tous les matchs que j'ai vécu avec eux, ils sont pas fermés. Bah, ils se concentrent, oui, mais ils sont pas fermés et ils sont pas hautains du tout.
Bah écoute, ça va dans quel sens alors?
Vas-y, Jean-Michel. Mika, on parlait des attroupements autour de l'arbitre. Et tout à l'heure, tu parlais, c'est le règlement. Pourquoi les arbitres, lorsqu'il y a un attroupement, lorsqu'ils viennent de donner un coup de sifflet et qu'ils signalent un coup franc, un hors-jeu ou à plus forte raison, un pénalty, il y a un attroupement et qu'ils n'appliquent jamais le règlement?
Aujourd'hui, systématiquement, Jean-Michel, il y a un carton.
Ah, c'est faux.
Ça y est, Jean-Michel, depuis le début de saison, c'est le cas. Et d'ailleurs, ça a rendu fou les Brestois. Dès qu'il n'y a plus qu'un joueur qui a le droit de s'adresser à l'arbitre, c'est le capitaine.
Tout le monde dit, en fait, Jean-Michel, il y a celui, normalement, maintenant, dès que tu cours ou dès que tu fais des gestes, tu prends carton. Et ça a même été sur le match d'ouverture Marseille-Rennes, Valentin Rongier, qui était capitaine.
C'est vrai.
C'est pas parce que t'es capitaine que tu dois te permettre tout ça. Par contre, t'as le droit d'aller échanger, partager. Et aujourd'hui, Jean-Michel, si jamais, s'il y a attroupement, sauf cas où ça se passe, il peut y avoir à un moment donné, mais c'est nous par exemple, on va faire un retour à l'arbitre, par contre il en sortira un, soit celui qui a été plus véhément, soit celui qui a fait la faute, et si ça se fait pas, nous comme dans le vestiaire, il y a des retours et on dit là il y a un manquement, et on travaille.
C'est les fameuses consignes du début d'année, chaque année,
et
c'est vrai que
aujourd'hui il y a une grande cohérence, mais l'intégrité physique, les cartons rouges sont sortis à 100% pratiquement. Et sur les comportements, mais c'est tout le monde le souhaite en fait. Mika, tout le monde le souhaite.
Tu vois, mais vous avez accentué
l'exercice qu'on est en train de faire, Mika, et c'est pour ça que c'est passionnant de te recevoir sur la longueur comme ça, sur une quarantaine de minutes, c'est que tu as la preuve par l'exemple que de la communication, ça apaise les tensions. Tu vois, t'es arrivé, il y avait Jérôme, il y avait Jean-Michel qui était remonté contre
l'arbitrage. Mais moi, c'est ce que je fais dans le vestiaire. J'ai fait toute ma vie dans le vestiaire avec lui.
Mais c'est pour ça que je te dis ça. L'importance de venir vous exprimer. C'est tout ce qu'on réclame dans Rotten Sans Flamme. Juste l'importance de prendre la parole.
Fait de plus en plus, mais ça peut pas être.
Et je parle au nom de Jérôme, de Jean-Michel et de Manu, mais c'est toute l'importance du message qu'on vous fait passer aussi, c'est que communiquer, ça peut
C'est qu'une étape,
mais elle est importante.
Moi, ma dernière question, Mika, c'est plus sur les consignes, donc ces fameuses consignes du début d'année. Souvent, les arbitres viennent voir les équipes.
Et les oublient.
Tu vois? Et on accentue sur des choses. À une époque, rappelle-toi, on était au tirage de maillot et Yepes, deux journées de championnat de
Tony Chaperon.
Voilà, avec Tony Chaperon qu'on embrasse. Tiens, excellent aussi. Et puis, bonne attitude sur le terrain. N'empêche que pour parler de ces consignes, donc vous avez accentué sur quoi exactement?
C'est pas accentué, c'est plutôt dans la continuité. Mais la continuité, elle est sur l'intégrité physique, donc toutes les semelles avec torsion de la cheville, etc. Et aussi sur le fait qu'on veut plus de comportement et d'image.
Ouais, ouais,
c'est et ça, d'ailleurs, il y a quand même un bon exemple aussi. Hein. C'est dans la continuité de la Ligue des Champions et des Coupes d'Europe. Et on voit l'évolution, par exemple, du PSG qui est champion d'Europe, mais on voit l'évolution auprès de l'arbitrage aussi.
C'est vrai.
Merci Mickaël Landreau, bienvenue dans Rotten sans flamme, porte-parole des arbitres, conseiller sportif.
Écoute, j'espère que maintenant tu vas m'envoyer le textier et puis.
Non.
Pas pourquoi.
Non, pas plus.
Non mais la plus,
mais
non
mais
la plus.
Si tu veux déjà bien féliciter les meilleurs arbitres du monde, il est meilleur arbitre du monde. On peut pas le féliciter.
Bah si tu peux. Comme si le meilleur joueur du monde, il venait sur ton plateau et que tu faisais pas une émission spéciale pour lui. Bah si tu l'as fait quand même, même s'il vient pas.
On va le faire avec Dembélé. Voilà. Et là, il va venir et donc après on aura.
Et là tu l'as fait avec les derniers Ballons d'Or. Ils sont venus sur ton plateau. Pourtant t'en as parlé. Hein.
Bah ouais. Karim Benzema, Zinedine Zidane.
Ils sont tous les bienvenus.
Non, jamais
ils sont tous les bienvenus. Merci Mickaël Landreau d'être venu.
Merci Mika.
Voilà le courage de Mickaël Landreau qui était venu affronter la Dream Team. Manu Petit, Jean-Michel Larquet, Jérôme Rotten. Moment que vous pourrez retrouver en podcast si vous avez loupé le début de cette interview qui avait été réalisée au début du mois de septembre. Dans un instant, un procès dans Rotten sans flamme, celui de Liverpool qui avait dépensé plus de 500 millions d'euros l'été dernier. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h sur RMC. Une bise à Jérôme Rotten qui est en vacances, qui se repose, qui sera de retour dès le début du mois de janvier. Dans un quart d'heure, les traditions sont respectées. Vous aurez le Allô Jérôme avec Omar Da Fonseca qui était venu rendre hommage à Léo Messi et à son investissement avec l'équipe d'Argentine. Mais tout de suite, c'est le procès ce soir de Liverpool qui a dépensé 500 millions d'euros au mercato d'été.
RMC, Rotten sans flamme.
C'était vraiment des faux derches de première qualité. Ça m'énerve de terre. Le football français est dans le trou à cause de réflexions et de raisonnements comme ceux que vous avez. Tu es capable de me mettre sur le même plan Didier Deschamps et Matteo Guendouzi.
Non, mais c'est le problème.
Non, mais je te parle. Je rêve ou quoi?
Le procès de Rotten sans flamme.
Ah ouais, c'était dingue. Du grand Jean-Michel. Parlons donc de Liverpool. Cet été complètement fou. Un demi-milliard d'euros dépensés par le championnat d'Angleterre. 144 millions pour Alexander Isak, 125 sur Wirtz, la pépite allemande, 95 sur Ekitike, 8 recrues au total. Précisons tout de même que les Reds ont fait partir 12 joueurs et ont récupéré 220 millions d'euros. Mais donc ce soir, on ouvre quand même le procès de Liverpool qui a dépensé 516 millions d'euros cet été. Le procureur pour dénoncer cette folie, c'est Monsieur Larquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Deux avocats qui adorent l'argent. Pascal Olmeta, Jérôme Rotten, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à toutes.
Et le verdict sera rendu par un supporter de Liverpool, c'est Adrien qui nous rejoint en 32-16. Salut Adrien.
Salut Adrien.
Bonsoir tout le monde.
Bienvenue. Allez, salut. Lançons ce procès.
Si les supporters de Liverpool, c'est mal embêté.
Ah, mais dis-toi, parfois, les achats excessifs et compulsifs, ça peut déplaire aux fans des Reds. Ouais. Vas-y Jean-Michel, toi ça te semble complètement dingue.
Allez,
les sommes annoncées.
Hein. Envoie la pilule. Non, j'envoie pas la pilule. Je dis simplement, sais quel est l'argument que vous pouvez m'opposer en premier. Et l'argument majeur, l'argument massu. C'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Oui. Les dirigeants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur argent. Sauf qu'à Liverpool, champion d'Angleterre, et c'est pas rien pour Liverpool d'être champion d'Angleterre, à Liverpool, il y a les dirigeants et il y a aussi les spectateurs. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un delta important entre les dirigeants et les spectateurs. Alors, il leur donne à manger, c'est sûr. Bon, Isak, je l'ai connu lorsqu'il était l'avant-centre de la Real Sociedad. Jamais je n'aurais imaginé qu'on avoisinerait les 150 millions d'euros pour un avant-centre qui arrive après deux autres attaquants de qualité. Que ce soit critiqué parce qu'il a fait ses preuves, non pas au Paris Saint-Germain, mais à Francfort. Et Wirtz, qui lui a fait ses preuves en Allemagne. Donc je ne pensais pas ça. Je suis sûr quand même que quelque part, les supporters de Liverpool, les vrais comme Adrien, et ceux qui habitent Liverpool, qui sont des fils de dockers, et ainsi de suite, je pense qu'ils n'imaginaient pas qu'un jour, on puisse mettre un demi-milliard sur la table pour renforcer une équipe championne et une équipe qui avait donné satisfaction. Alors, moi, Je suis d'accord. Je l'ai toujours dit dans Rotten sans flamme. C'est bien de changer une équipe qui gagne. C'est bien.
Alors on en parlera à 19h avec Paris, d'ailleurs.
Ouais. Y apporter une petite touche. Y apporter quelque chose. Je pense que c'est intelligent. Mmh. Mais changer une équipe en mettant un demi-milliard sur la table, j'ai peur. Alors, je sais que les supporters vont l'oublier. Bon, c'est les jeux du cirque. C'est vrai. Mais je trouve que ce n'est pas en adéquation avec le merveilleux public de Liverpool. Voilà. Maître je trouve Roten. qu'il y a un décalage. C'est tout.
Maître Roten.
Non, mais bon, moi, où je suis surpris, c'est que M. Larquet s'attaque au football anglais. Alors, peut-être qu'il a oublié ce qui se passait il y a quelques années aussi. Et moi, je reviens.
On parle de Liverpool.
Je reviens juste.
On parle pas de Manchester City.
Non, mais Liverpool, tu peux prendre tous les clubs anglais qui.
Non, on parle de Liverpool. Non,
mais je te dis, Liverpool, c'est l'exemple, c'est le numéro un dans les dépenses sur le mercato d'été.
Ouais.
Mais n'empêche que tous les autres clubs anglais, ils ont beaucoup dépensé. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus riches que tous les autres championnats et tous les autres clubs en Europe. Et c'est comme ça, ou dans le monde. Donc la Première Ligue, on n'est pas sans savoir que elle a des ressources incroyables. Et tant mieux pour eux, ils en profitent. Et ils profitent. Et les joueurs, les meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, se retrouvent en général en Première Ligue parce que ils ont la capacité de les attirer, les clubs, parce que en termes de transfert. De prix de transfert, ils peuvent mettre l'argent où ils ont envie et surtout en termes de salaire aussi. Mmh. Et on le voit avec des plus petits clubs. On voit Sunderland au dernier moment qui fait
115 millions d'euros de dépenses. Sunderland,
t'imagines. Et Sunderland est une équipe qui monte.
Ils viennent de monter.
Et qui va lutter pour le maintien. Ils ont fait un attaquant.
Qui sort en force et c'est un peu normal.
Ils ont fait un attaquant à 20 millions. Normal. Nottingham Forest a pris au dernier moment Bakwa de Strasbourg. Parce que c'est comme ça. 35 millions pour Bakwa. C'est un super joueur, mais 35 millions. Donc, si tu prends proportion gardée avec les joueurs que Liverpool a pris aujourd'hui, forcément, c'est pas des joueurs qui vont coûter 50 millions. C'est des joueurs qui arrivent à 150 millions. Mais le plus important, c'est pas forcément de voir juste ce qu'ils dépensent, parce que de toute façon, le marché anglais a toujours été comme ça. Même à mon époque, on pouvait pas, les clubs, et je te parle au début des années 2000, et je te parle il y a 20-25 ans, on pouvait pas, quand il y avait un club anglais qui se mettait sur toi, les clubs français ne pouvaient pas lutter parce qu'ils avaient plus de moyens en termes de transfert, mais aussi en termes de salaire. Non, mais moi, je te dis juste qu'il faut que ça reste à l'intérieur de l'Angleterre. C'est comme ça. Et ils font ce qu'ils veulent de leur oseille. Okay. Ça pose moins de problèmes. En effet, rappelle-toi une époque quand Neymar est arrivé au PSG avec Mbappé, ils avaient dépensé la même chose. Ils avaient dépensé la même chose parce qu'il fallait qu'ils construisent une grosse équipe tout de suite avec des grands noms.
220 et 180.
Eh oui, ouais. Donc ça faisait 500. Mmh. Donc là, Liverpool, en effet, moi, ce qui m'aurait le plus choqué, et là, j'aurais été dans le sens de Jean-Michel, c'est pas les dépenses, c'est de voir qu'une équipe championne, elle change un peu ce qu'on disait sur Marseille. Mmh. Mais vous avez vu le match contre Arsenal? Contre Arsenal, il y a une ou deux recrues seulement sur le terrain. Sinon, c'est l'équipe de base. Ils n'ont pas bouleversé ça. Ils ont anticipé. Bon,
c'est ça qui est fou.
Mais anticipent. Alors. Le PSG, on en parlera dans quelques minutes. Allez, ils n'ont pas anticipé.
Wirtz, Isaac, ils seront titulaires.
Le deuxième avocat.
Wirtz est titulaire.
Allez-y.
Eh bien, tout simplement, il faut pas toucher ce club. 450 000 habitants en Angleterre. C'est un statut historique, mondialement connu. C'est un club qui appartient à une gestion américaine où eux aussi ils ont un club de baseball. Les droits TV, je crois qu'ils touchent 200 millions d'euros.
Ben oui, c'est incroyable.
Ils gèrent comme jamais personne n'a géré un club. La billetterie au stade, ça dépasse les 60 000 places. Mais il n'y a pas besoin d'aller taper dans les scènes d'abeilles. Nous, on ne sait pas faire. Mais ces clubs-là, ils nous donnent des leçons. À partir de ce moment-là, on a le droit de ne rien dire. C'est qui dépense 500, 1 milliard. Mais ils le dépensent.
J'aime bien parler quand même de l'identité du club.
Alors justement, le verdict qui va être rendu par
l'identité du club, ils ont gardé tout l'effectif de l'année dernière. Alors,
écoute, merci à Jean-Michel Larquet dans ce procès. Magnifique.
Liverpool reste un immense club. Voilà.
Bon, et en tout cas, tu restes attaché aux Reds de Liverpool.
Immense procès avec Pascal Olmeta, avec Jean-Michel Larquet, avec Jérôme Roten dans un instant. Allô Jérôme, comme tous les soirs à 18h45, avec le grand Omar Da Fonseca. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Dans un instant, le Allo Jérôme avec Omar Da Fonseca. Et puis à partir de 19h, retour sur une opération qui avait très bien marché sur cette première partie de saison, le jeu de la vérité avec Christophe Dugarry, avec Eric Dimeco. C'était le soir de Jérôme Rotten. Il avait dit toute la vérité, rien que la vérité. Ce sera à partir de 19h, mais on y va donc. Omar Da Fonseca était avec nous au mois de septembre dernier.
RMC, Rotten sans flamme.
Louis, quand il faut décider, quand il faut mettre le cœur et le courage, peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre.
Allô Jérôme.
Un monstre. Tous les soirs, un acteur du foot s'invite dans Rotten sans flamme. On voulait rendre hommage à Léo Messi, dernier match Argentine avec le maillot de la sélection hier pour Messi, 38 ans, 8 ballons d'or, 80 000 personnes à Buenos Aires, un doublé face au Venezuela. Et forcément, Omar Da Fonseca, consultant beIN Sport, est dans Rotten sans flamme, Jérôme.
Salut Omar.
Comment allez-vous? Vous tous, merci beaucoup.
Ah là, c'est un plaisir de t'accueillir. Quand je t'entendais commenter comme en disant c'est le monstre, je crois que tu parlais de Thiago Silva. Mais en fait non, c'était Léo Messi.
Oui, non mais j'étais court dans les adjectifs, j'aurais dû dire le monstre, le crack, l'élu, la légende. Bon, je savais que t'allais être fâché, donc j'ai pas voulu.
Pas du tout. Bah c'est c'est mon idole, écoute
Omar, Léo Messi. Parle-nous de ce moment d'émotion hier, c'était complètement fou en Argentine, Messi avec ses enfants au moment de l'hymne, tout le monde qui était en larmes, un moment extrêmement fort. Hein.
D'abord, nous les Argentins, vous savez, on est assez réservés, on est très pragmatiques. on a toujours besoin, on a toujours un peu de vivre le débordement. Toi, on attend toujours que quelqu'un puisse nous représenter. On l'a vécu déjà avec Maradona. Parce qu'il faut se dire que Léo Messi, ça a été quand même assez ambigu, parce qu'il a été beaucoup, beaucoup critiqué. Mais quand on dit beaucoup, vous savez, en Amérique du Sud, le fanatisme fait que des fois c'est sévère et grave. Or, après, les choses ont été ainsi à travers le fait de gagner la Copa América et surtout la Coupe du Monde, fait qu'aujourd'hui Messi c'est un peu le représentant. Et comme en Argentine, des fois la situation économique et sociale n'est pas toujours évidente. Et on a besoin, je dis on, mais ils ont plutôt besoin le fait de pouvoir se sentir avec une relation vraiment proche, intime, de quelqu'un qui, évidemment, a soulagé et a donné beaucoup, beaucoup de bonheur aux Argentins à travers le football, qui est le sport le plus religieux en Argentine.
Ce qui me rassure, c'est que là, voilà, t'as plus d'émotion parce que hier tu chialais comme Léo Messi, comme toute sa famille. Donc voilà, c'est quoi ton analyse? Il va te manquer certainement.
Oui, d'abord, vous avez dit le dernier match. Non, le dernier match
en Argentine.
Le dernier match en Argentine. Voilà.
Il a laissé planer le doute pour la Coupe du Monde, bien sûr.
Oui, mais ça aussi c'est normal. Il faut créer de l'expectative. S'il dit déjà qu'il va jouer, il va marquer 18 buts, vous allez, ça y est, on en parle autre chose. Non. Forcément, donc et il va y être à la Coupe du Monde, il y sera parce que ça sera vraiment la fin. Ouais. Mais évidemment que le jour où lui va arrêter les ballons, les poteaux de corner, et vous, monsieur Rotten, et nous tous, on va tous pleurer. Ça, c'est évident.
Ben oui.
Tu vas pas pleurer, toi?
Si, mais est-ce que tu penses
que tu... Parce que ton pied gauche, et ça valait combien de pied gauche? Est-ce que ton pourcentage de pied gauche, où tu l'évalues,
toi? Comment
tu
compares ça? Ça va pas.
Ah, on est deux gauchers. Incroyable. Après, c'est vrai que Léo.
Bien joué.
mais est-ce que tu penses que le.
Attends, tu l'aurais pas mis le.
Bah
petit
ouais, dites quelque chose. Oh, Benoît, Younes, laissez pas passer ça quand même.
Jérôme, il aurait frappé en force.
Mais ils savent, ils ont beaucoup de respect pour mon pied. C'est...
Ah, la même bon pied, Jérôme, la même bon pied.
Eh oui, wow, c'est Messi en face.
Il
quand
est,
même.
Il est au musée Grévin, à côté de celui de Messi. Omar, pour parler du niveau de Léo Messi, parce qu'on s'est rendu compte avec la Coupe du Monde des clubs que le niveau en MLS était catastrophique. Est-ce que tu penses que c'est problématique pour avoir un grand Léo Messi comme on a vu au Qatar il y a 4 ans ?
Le temps, il passe pour tout le monde. Je crois que c'est une réalité qu'on ne verra plus le Lionel Messi qui faisait 5-6 accélérations par mi-temps et qui laissait la carte de visite à toutes les adversaires. Donc, et ça, c'est une évidence. Or, on parle de quelqu'un qu'il y a une influence tellement surdimensionnée, mais pas que pour l'Argentine, pas que pour ses coéquipiers, pas seulement pour l'adversaire, pour l'arbitre, pour les supporters, pour les journalistes. C'est quand même quelqu'un qui remplit tout. Donc, oui, il ne sera plus le joueur attendu. Mais on sait que, on parlait du pied, on sait que sa tête, son cœur et son petit pied gauche, ils pourront faire des étincelles. Donc, bon, il y a encore un parcours jusqu'à juin 2026. Beaucoup de choses se pourront. Mais c'est évident que l'examen qu'il fait en jouant aux États-Unis, c'est beaucoup moins relevant que ce qu'il peut faire par ailleurs. Mais bon, il dit qu'il va se préparer, que c'est sa dernière situation de vivre, je crois, un grand moment. Et pour ça, un mec comme lui, la seule chose qui lui intéresse, c'est encore pouvoir avoir une espèce d'adrénaline et d'énergie qu'il ne pourra plus jamais vivre dans sa vie.
Toi,
il le répète à chaque fois.
Mais toi, Omar, t'attends quoi de Léo Messi, de sa Coupe du Monde? Toi, mouille-toi un peu.
Mais moi j'attends qu'on lui donne la balle à chaque fois que tous les autres ils font pareil, tu vois, des Paul, les mecs, des Conte qui prend la balle, il dit oui les Messi partout, il met la balle, c'est ça les situations, c'est que même la balle il choisit les pieds, comme avec vous il choisit les pieds de Messi,
parce que ça l'attire, le ballon traité, il est...
oui.
L'attire le ballon,
absolument, exactement.
Tu vois sur les deux buts qu'il marque, le ballon il vient à lui, hein.
T'as tout compris. Les joues du ballon, ils sont décontractés quand la balle sont dans les pieds de Messi.
Les joues du ballon, donc, c'est vrai. Ça, parfois, elles souffrent en Ligue 1, les joues du ballon, Omar. Hein, malheureusement.
C'est ça qu'il faut avoir une sensibilité bien profonde. Lui, il fait pas des passes. Et lui, il caresse. Il est dans la tendresse, dans la subtilité, la délicatesse. On peut pas nier tout ça, les garçons.
C'est sûr, mais c'est pour ça qu'en Ligue 1, nous, on use tous les week-ends beaucoup de ballons par match. Hein.
Ils en prennent des tartes, les ballons.
Les joues, elles sont bien rouges.
Hein. Benoît, t'as joué contre Messi, toi, en Ligue 1 ?
Oui.
T'as souffert ?
Ouais, c'est pas un bon souvenir. Hein. On avait pris 6, je crois, avec Auxerre.
Oh merde.
Et l'année d'avant, avec Bordeaux, j'étais blessé. Mais ouais, c'était compliqué. Mais il avait joué en marchant, mais dès qu'il touchait le ballon, c'est une machine.
Ah bah en marchant,
nous, il a eu peur de venir chez nous au Maroc.
Non, non.
En équipe nationale, il a eu peur.
Il n'est pas venu au Maroc.
Il a eu peur.
C'est vrai. Mais Omar, ça tombe bien. T'as vu l'analyse de Benoît en marchant. J'ai l'impression qu'à Paris, oui, il a joué en marchant, en fait. Pendant 2 ans.
Voilà, ça. Exactement. Non, c'est ça.
Quand tu touches le ballon, attention.
Je veux parler des sensibilités, voilà. Non, lui, il ne marche pas. D'abord, il vole. C'est une espèce de gazelle avec beaucoup de réflexions. Et ensuite, pendant que vous croyez qu'il marche, il réfléchit. Lui, il anticipe à l'action. Il prévoit pour faire savoir et le savoir-faire. C'est une autre sensibilité.
Allez, merci Omar. Merci beaucoup Omar. À bientôt. Continue de commenter les matchs comme ça. Moi, je vibre.
On l'adore, Omar. Un grand Omar da Fonseca qu'on embrasse et qu'on retrouvera certainement sur la deuxième partie de saison dans un instant. La suite des meilleurs moments de Roten sans flamme avec le jeu de la vérité. Jérôme Roten s'y était prêté. Il avait dit toute la vérité. Rien que la vérité. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Roten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.